l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés sont pardonnés. » Voyant leur foi. On connaît un peu de l'histoire, cet homme va être gay. Mais j'ai été interpellé par ce texte où il est dit que Jésus a vu leur foi. Et je me suis dit, elle avait quelle couleur à la fois pour qu'il l'ait lu aussi facilement. Elle était bleue, blanc, rouge, vert, jaune. Elle avait quelle forme? Elle était carrée, rectangle, rond. Comment ça se fait que Jésus a vu en un seul coup d'œil la foi de ses amis? Comment as-tu pu apercevoir cette foi? Et finalement, il y en a un qui en est au bénéfice de cette foi-là. C'est le malade. Ce brave monsieur qui était, dit-on, paralytique. Et au passage, peut-être, c'est en examinant le processus de la façon dont Jésus a guéri cet homme-là et comment il incarne la guérison qui pourra nous permettre de voir de quelle foi il s'agissait. Comment est-ce que Jésus a pu voir la foi? Quel était l'ingrédient? Quels ont été les ingrédients pour que cette foi se manifeste? Ces quatre personnes, je suppose que c'était quatre à le porter, parce que non, trois ou quatre à porter cet homme pour l'amener jusque devant le Christ, afin que celui-ci le touche et le relève. Premier ingrédient, il y avait une motivation juste, je crois. Il y avait la compassion. J'imagine un peu la scène. Il y avait là un voisin ou un ami qui était malade depuis des années, malade, paralysé. Alors chez nous, ça va bien encore qu'on est paralysé, n'est-ce pas? Il y a les services qui sont en place, les hôpitaux, les médecins, la sécurité sociale. Tout est là, tout est fait pour que les handicapés trouvent leur place au milieu de la société. Mais quand je vais au Sénégal, et que vous êtes paralysé au Sénégal, au fin fond de la bouche, je vous assure, vous êtes mal barré. Vous êtes très mal barré. Mais il y avait quatre amis. Ils avaient compassion de leur ami. Ils avaient un amour pour lui. Et c'était le point de départ. Et je crois honnêtement que la compassion est la marque de fabrique du Christ. Et ça devrait être, et toujours être encore, la marque de fabrique du christianisme, y compris de nous tous. La compassion. Mais cette compassion n'est pas juste une simple, une belle émotion de cœur. Elle a été traduite par les actes. Et à un moment donné, ils se sont bougés et bougés ensemble. Parce qu'aucun tout seul n'aurait pu faire ce que les quatre ont fait ensemble. Il a fallu se bouger ensemble, un même collectif, une même direction. Et puis ils ont travaillé ensemble, ils ont harmonisé leur démarche. Ce n'étaient pas des légionnaires, ou des gendarmes, ou alors des brancardiers professionnels qui avaient l'habitude de soulever des malades. Ils ont dû s'harmoniser, j'imagine un grand et un petit. Ah ben oui, il fallait s'harmoniser. Il fallait aller la même pas. Et j'imagine qu'on les a marchés. Si l'un marchait très vite, l'autre trop lentement, il fallait harmoniser les pas pour que finalement il puisse amener cet homme au pied de Jésus avant que ce dernier le guérisse. Et une fois qu'il était sur le toit, ils avaient fait le trou, il fallait le descendre ensemble de manière harmonisée aussi. Faute de quoi le paraplégique peut devenir tétraplégique. Et lui, s'il y en a un qui allait trop vite, il risque de tomber par le brave malade. Et enfin, ils ont persévéré. Ils ont persévéré, un, dans la façon de s'entendre. Ils se sont entendus, ils ont persévéré malgré leur divergence d'opinion, de façon de penser, de façon de faire. Deuxièmement, ils ont fait certaines distances ensemble. Et généralement, c'était pas. En tout cas, on peut imaginer qu'il faisait chaud ces jours-là. Et qu'ils ont transpiré ensemble. Vous avez un projet commun, un cœur pour Lyon, vous allez transpirer ensemble. Vous allez voir que vous harmonisez. Pour que finalement, ces Lyonnais que vous aimez, que nous aimons, puissent entendre parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de ce Dieu qui a de l'avenir et de l'espérance à nous proposer, et qui aime ce pays et qui aime ses habitants. Enfin, ils ont persévéré dans le fait de refuser de céder au découragement. Arrivé devant la maison où était Jésus, il y avait une telle foule qu'il était impossible de l'approcher. Et j'imagine ces quatre gars ensemble. Ils ont dit, mais maintenant on fait quoi? Alors il y a le schtroumpf grognon qui a dit, tu l'avais dit, ça ne marchera pas.
Mais je me trouve optimiste. Et de dire, mais si les gars, j'ai une idée. Et puis il y avait le Schtroumpf de Réka. Une bonne idée, vous savez, par lui, mais mec, c'est une bonne idée. Et si on montait sur le toit de faire un trou pour descendre? J'imagine ici, monsieur le maire, votre sol ici, qu'on fasse un trou dans le toit aujourd'hui. Mais ils l'ont fait. Ils ont refusé de céder au découragement. Finalement, leur foi s'est traduite par de l'audace. Ils étaient audacieux. Ils ont dit, allez, on y va, les gars. Jusqu'au bout, ils ont tenu. Et finalement, le malade a été amené devant celui qui pouvait lui donner une solution. Jésus, voyant leur foi, est-ce que vous comprenez un peu comment il a pu voir la foi de ces hommes? Un mélange de motivation, d'action et d'attitude. Et ces choses se mélangent. Maintenant, on propose de vous encourager à la foi pour ce projet qui est si bien préparé, présenté en tout cas. Et la foi de croire que Dieu aime ces lionnais. Deuxièmement, qu'il faut travailler ensemble pour les atteindre, mais enfin de persévérer jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils puissent croiser celui qui est le chemin, la vérité, la vie. Combien souvent on se sent bien entre nous comme ça, n'est-ce pas? On a l'oublié les paralysés du dehors. Notre pays, ces gens paralysés par la peur des choses divines, Dieu. Encore que ce soit détendu, que ce soit en 10 ans, les choses ont largement évolué et positivement évolué, mais la peur des religions, la peur des sectes, la peur d'une histoire chargée de guerre, qui plus est de guerre de religion, la peur de l'avenir, la peur de la crise, la peur de ce qui va arriver. On peut effectivement avoir des craintes, mais en même temps, j'aimerais vous dire qu'en face de nous, il y a un pays qui, par endroit, est paralysé, mais par endroit aussi, a soif, soif d'entendre des choses vraies, des choses vivantes, des choses qui sont de transcendantes, du divin. Je suis toujours étonné que la France, qui se réclame de philosophe de la lumière, soit tellement encline à aller visiter tout ce qui est voyant, redouteux. Toutes ces choses qui font partie du monde spirituel. Cette semaine, on a parlé, j'ai ouvert la radio et on parle du coming out de François-Olivier Gisbert. Je me suis dit, non, il est homosexuel aussi. Et le journaliste a fait un mot là-dessus. Il dit, non, monsieur François-Olivier Gisbert n'est pas homosexuel, mais il fait son coming out de sa foi. Il va paraître un livre qui s'appelle Dieu, ma mère et moi. C'est à côté de Frédéric Lenoir, philosophe, qui lui aussi, en même temps, sortit un bouquin qui s'appelle Dieu entretien avec Marie Drucker. Je vous livre quelques extraits de cette interview intéressante. Il a dit, on est fatigué d'une société qui a remplacé Dieu partout, par l'argent, le matérialisme. Plus loin, il dira, la religion, c'est un très beau mot, c'est le mot, c'est le mot latin, religare, qui veut dire un lien, le lien entre les hommes, la fraternité, la communion. Plus loin, il dira encore, on a besoin de liens, de communion, de sens, d'espérance. C'est le noir philosophe dira, parmi les 3 religions monothéistes, j'ai une préférence pour le christianisme à cause de l'amour. Et son personnage central, le Christ. J'ai cru tomber à la renverse. Je me croyais ou sur Paris FM ou sur RCF, pas sur Europe 1. Plus loin encore, un des deux dira la chose suivante, les paroles du Christ traversent les siècles. Et l'un des deux a dit, l'évangile n'a pas pris une ride, il est incroyablement moderne. Et ce n'est pas un pasteur qui l'a dit ça, ni un prêtre d'ailleurs. En revenant à des prêtres, on voit peut-être dans notre histoire qui, eux, alors que le malade est devant Jésus, et que Jésus leur envoie un pavé dans la mare, je pense qu'il l'a fait exprès. Moi j'aime ce Jésus bien provocateur par endroit. Hein. Il y a le malade là-dedans, les amis sont là, tout le monde s'attend à ce que ce Jésus qui vient guérir juste de quelques temps auparavant d'autres malades s'attend à ce que le Seigneur le touche et le relève. Et pendant ce temps, les pharisiens, les théologiens, ils discutent. Ils discutent. Notre pays a besoin de beaucoup plus de discussions. Il a besoin que les chrétiens se lèvent et partagent un message d'espérance. Il a besoin de voir des gens comme vous et moi se lever et dire qu'on a beaucoup plus à proposer que de la religion. On a proposé une véritable espérance. Un personnage incontournable. Le Christ, le Fils de Dieu qui est vivant et qui est ressuscité au siècle des siècles.
Amen.
C'est une scène surréaliste. J'imagine une scène, si je fais une comparaison, vous imaginez un petit peu un accident de la rue, un accident de route, pleine nuit. Et vous avez vu y arriver les pompiers d'un côté, de l'autre côté, il y a le SAMU qui arrive. Et tout le monde s'empresse autour de ces voitures qui sont enchevêtrées. Et tout à coup, vous avez les gens dans la voiture qui entendent les pompiers discuter avec les gens du SMUR pour savoir si après minuit, ils sont payés un soupe ou non. C'est un peu la scène autour ici. Ça discute. Arrêtons de discuter. Commençons à agir ensemble. Le monde est un paralysé, mais les paralysés qui ont soif. Qui ont soif de voir les choses venir. Soif de voir un Dieu vrai répondre à leurs prières. Si je suis devenu chrétien, c'est parce que mes parents ont vécu des choses. Ma maman était gravement malade. Et on allait tous les samedis chez les recruteurs. Tous les samedis. La voiture connaissait le chemin direct, sans GPS. Jusqu'au jour où un chrétien a dit à ma mère, mais chez nous à l'église, avec le pasteur, on prie aussi avec les malades. Et on prie à haute voix. Et je me rappelle le samedi matin. Même à un moment donné, j'avais 15-16 ans à l'époque. Et puis on arrive et elle demande à ce monsieur qui est un homme de la famille, peux-tu prier à haute voix aujourd'hui? Il dit non, pas question. Ah bon, pourquoi? Parce que si je le faisais, tu pourrais le faire aussi. Sous-entendu, tu pourrais aussi ouvrir un cabinet et me poser des clients. Et ma mère m'a répondu, si tu n'as pas le courage de prier à haute voix, je t'interdis de prier pour mes enfants. Et le dimanche suivant, on était au culte. Et ma mère a été voir le pasteur. Et ils ont parlé ensemble. Ils ont fait, entre guillemets, une cure d'âme. Et à la fin, il a prié pour elle. Et ma mère, qui était rentrée malade dans le bureau, est sortie guérie du bureau. Dieu a fait irruption dans notre vie. Et moi qui avais une foi traditionnelle, je croyais en Dieu, j'allais à la messe le dimanche, à Noël, à Pâques, comme tout le monde. Tout à coup, ce Dieu qui était, j'y croyais, en même temps, j'avais besoin de voir, de m'arranger. Tout à coup, il a fait irruption dans notre vie. Le temps passe. Prenons la thématique. Il est 11h32, tout le monde soit tranquille. Ce paralytique n'aurait jamais eu la possibilité de croiser Jésus si ses quatre amis n'avaient pas agi ensemble. De tel jour, c'est unis sous le règne de Christ. Unis sous le règne de Christ. Une vieille sagesse biblique tirée du livre de l'Ecclésiaste dit « Deux valent mieux qu'un ». C'est un principe spirituel. Deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre le relève. Avec Jacques Aguilar, mon ami, on a devenu un ami entre-temps, et bien nous avons fondé le réseau par les fonds. Et aucun de nous deux ne pourrait faire ce que vous entendez à la radio, c'est parmi nos efforts et nos forces ensemble. Et je voudrais en ce lieu, cette place, lui rendre hommage. On travaille ensemble. L'après-midi, l'animation se fait et à Grenoble, et à Lyon, et à Montauban, et c'est mis ensemble à Mulhouse, et c'est renvoyé dans le réseau. Et tout le monde en bénéficie. Parce que deux valent mieux qu'un. Et ces quatre amis ont travaillé ensemble. Mais pour ce faire, il y a une nécessité. Je voudrais vous lire un texte tiré de la lettre de Paul aux Éphésiens. Voici ce qu'il dit au verset. Premier du chapitre 4, il dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de votre vocation qui vous a été adressée. » Et on peut se demander qu'est-ce que ça veut dire, marcher d'une manière digne. Spontanément, on se dit, on est dans de l'immoralité,
une vie loin de la crédulité, loin des choses tordues, des téléchargements illégaux, de la fraude fiscale. Alors c'est vrai, soyez loin, aussi face au fisc. Ceci étant dit, c'est pas le sac qui parle ici. Écoutez voir ce que Paul entend par marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Il dira la chose suivante. Vous supportant les uns les autres avec amour. Hello. Assez facile de se supporter une fois l'an, hein, dans un culte commun. C'est un peu moins facile quand c'est tous les jours ou toutes les semaines, ou sur un projet comme ça qui demande beaucoup d'énergie sur un temps très court. Et puis il rajoute une autre chose, il dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous efforçant, le mot vous efforcer, dictionnaire dit faire tous ses efforts. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et ce matin, la question que je nous pose et que je nous reposerai à la fin de mon message dans quelques instants, c'est est-ce que je fais dans mon contact avec mes frères d'une autre église, est-ce que je fais tous mes efforts pour conserver cette unité de l'esprit? Un des psaumes dit, ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Autrement dit, ah, qu'il est doux d'être un ensemble. C'est comme l'huile sur la tête d'Aaron qui descend sur la barbe jusqu'au bord. C'est comme la rosée de l'Hermon qui inonde toute l'Hermon et la vallée qui vient. Et de terminer ainsi verset 3. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est là, j'en veux dire, et pas ailleurs. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Et la vie a un visage et un nom, et il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui la vie. Et c'est d'ailleurs le personnage le plus important dans ce passage, parce que le but ultime, bien-aimé, c'est que le paralytique rencontre Jésus. Le but ultime, c'est que les Lyonnais croisent la vie du Christ, comme je l'ai croisé un jour, comme vous l'avez croisé un jour. Le but ultime, c'est ma religion, ma tribu. Le but ultime, c'est qu'on fasse croiser aux Lyonnais, aux Français, aux Alsaciens. Parce que des fois, on me dit qu'on est pas forcément en France, parce qu'on est en France. Hein. Les Français que je crois de plus en plus ont soif de vie, ont soif de croiser celui qui s'appelle le chemin de la vérité et de la vie. Et autour de nous, il y a des gens qui sont paralysés, pas forcément physiquement, mais paralysés en attente de secours, paralysés spirituellement. Ils ont soif de plus. C'est bien d'avoir une maison, c'est bien d'avoir une famille, c'est bien d'avoir un chauffage, et c'est utile, et c'est nécessaire, et tant mieux. Mais pour demain et après-demain, c'est bon d'avoir quelqu'un à côté de nous, un ami qui s'appelle Jésus-Christ, comme le dit avant, on dit les deux frères. Quelqu'un qui est là aujourd'hui, demain et après-demain, celui qui s'appelle l'Éternel, et qui a le cœur de vie et d'espérance. Et pour ce faire, permettre que ces paralysés se lèvent, croient au Seigneur, j'aimerais nous le rappeler, aucun de ses amis paralysés n'aurait pu faire à lui tout seul ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait ensemble à tous les quatre. Il a fallu qu'ils se mettent d'accord. Et je suis sûr et je suis certain que ces quatre gars ont dû faire des efforts pour s'entendre. Comme j'en étais avec Jacques et Jacques avec moi, pour que nous nous entendions. Moi, je suis un Alsaco avec un carafon. Lui, c'est un Lyonnais avec un carafon. Bien sûr. Martine me dit oui. Oui, je l'assure. Et vous savez quoi? On s'entend et on est devenus amis. Malgré nos différences d'âge, nos différences culturelles, on est devenus des amis. Je rêve que vous deveniez tous des amis les uns avec les autres.
Et je rêve de voir la main de Dieu se poser sur vous et sur vos communautés respectives, parce que justement vous vous aimez les uns les autres, parce que vous faites tous vos efforts pour conserver l'unité de l'esprit, le lien de la paix. Le texte du jour proposait une lecture en Apocalypse 3, 19 à 21, je vous le lis. Et donc du zèle et repens-toi. Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, vite, ma ce message te concerne. Parce que peut-être dans ton cœur, tu t'es bloqué, tu as fermé les portes. Tu as été blessé par un confrère pasteur. Alors, sois, bonjour frère. C'est glacial, monsieur Tatan. Et du zèle, et reprends-toi. Aime-le comme Jésus nous aime. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce temps où Jésus est donné un rendez-vous pour une conférence de paix, Jean 21, après la résurrection. Donc, 10 jours ont passé. 10 jours avant, l'apôtre Pierre, le grand apôtre Pierre, a dit de Jésus publiquement, je ne connais pas ce type-là. Non. Tu parles comme lui, hein, Marc. Non, je ne connais pas, non, ne trompe, c'est pas possible, non. Jamais plus que. Et à un moment donné, un des textes dit la chose suivante, Jésus se retourne et le voit dans le blanc de l'œil. Je ne sais pas si mon ami, j'ai un ami qui s'appelle Saint-Peter Schmitt, ça fait 20 ans qu'on bosse ensemble, et qu'au cours d'un moment de pression pareil, ce type me dit, ça me dit, non, je ne connais pas plus haut, non, j'en ai vu. Je ne sais pas quelles sont les réactions intérieures que j'aurais eues à l'égard de mon ami Samuel. Mais certainement que 10 jours plus tard, j'aurais pas imaginé l'inviter au restaurant Bocuse du coin pour un repas conférence de paix. Et pourtant, c'est ce que Jésus a fait. Celui qui a été blessé a été à l'initiative de la réconciliation. Et du zèle. Repends-toi, que celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Ce matin, les jeunes frères, pasteur Wilson a rejoint sur l'estrade. Peut-être ce matin, tu as besoin de vaincre des vieilles rancunes, de passer tourner la pince des vieilles querelles, peut-être de te rincer les yeux. Et de laisser Jésus changer ton regard sur celui ou celle qui t'a blessé, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra ce genre de ressentiment, de vieille querelle, de vieille machin, à celui-là, je lui donnerai de s'asseoir sur le trône. Je ne terminerai pas la prière. Et j'ai une question à vous faire. Je vais vous reposer une question. À chacun individuellement. L'intérêt commun était que ce paralytique se lève. L'intérêt commun, c'est que les gens, dans cette semaine de avril, entendent parler de Jésus. L'intérêt partisan ecclésial, s'il vous plaît. Ce matin, la question que je me pose, c'est sous le thème uni sur le règne de Christ, quels sont les efforts que je suis prêt à faire? Quel est le regard que je suis prêt à changer? Quelle est la démarche que je suis prêt à entreprendre pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix? Car là où il y a l'unité, là où il y a la paix, là Dieu envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité.
Nous te rendons grâce pour cette parole qui nous parle ce matin. Que ton désir que, ensemble, nous puissions apporter ceux qui ont besoin de la touche de ta main, sur leur vie. Que nous soyons unis d'un seul cœur, d'une seule intention. Que nous soyons prêts à marcher ensemble, à travailler ensemble, pour porter ceux et celles que nous voulons t'amener à toi. Seigneur, unis nos cœurs et permets que, ensemble dans cette vie, nous ne nous épargnions pas à cause de l'orgueil ou de la différence, mais que nous soyons ensemble à ton service, porteurs de ce que tu veux guérir, respecter, sauver. Seigneur, agions et fais fructifier cette parole de ce matin. Nous prions. Amen.
Amen.
Pour terminer ce temps de culte, nous voulons nous rassembler autour de la table du Seigneur, où les choses vraies sont vécues sous son regard et par sa présence. C'est le pasteur Frédéric Séparé de l'Église.